Chapitre 31. Assise sur un gros rocher, Joanne regarde l'aube se lever. L'orage est passé. Le calme est revenu sur le vallon au cœur des montagnes. Les premières lueurs du jour se reflètent sur la cime des monts. De jolis dégradés d'orange, de rose et de rouge. Le ciel se teinte de lueurs bleues nacrées. Avec des gestes lents, Joanne ouvre le carnet noir posé sur ses genoux. Dans l'élastique de la couverture, un feuillet de papier a été glissé. Elle le déplie soigneusement et se met à lire. Mes instructions post-mortem. Joanne, si tout s'est déroulé comme je l'aurais souhaité, je suis normalement mort loin des hôpitaux, dans un endroit calme et paisible, dans les montagnes. Ne t'embarrasse pas de toutes les formalités qui vont suivre. Contente-toi d'appeler le premier médecin que tu trouveras sur Internet ou sur un annuaire et demande-lui de venir constater mon décès. Je t'épargne le reste. Il me conduira dans la chambre funéraire la plus proche et se chargera d'appeler mes proches. Ils feront rapatrier mon corps et enclencheront tout le reste des formalités. Tu en as bien assez fait comme ça. Je souhaite que tu envoies mon carnet à mes parents comme nous l'avions évoqué. Voici l'adresse de leur maison. Monsieur et Madame Verger, 112 Impasse des Lys, 43200 Roanne. Envoie-le en recommandé, s'il te plaît, je ne voudrais pas qu'il se perde. J'ai transmis les instructions à mes parents concernant l'incinération. Je sais qu'ils respecteront ma parole, et je pense qu'ils organiseront une cérémonie religieuse. Tu trouveras l'adresse et le lieu en consultant la rubrique nécrologique du quotidien de Roanne. Il s'appelle le Roanne Info, et il est disponible en ligne. Pour le reste, nous nous retrouverons là-haut. Je prendrai soin de Tom. Nous t'enverrons de temps en temps les plus beaux cieux d'été, juste pour que tu puisses le contempler d'ici bas, assise au milieu d'un champ. Merci pour ta promesse, merci pour tout. Ton mari, Émile. PS, je ne te l'ai jamais dit, tu étais éblouissante ce 31 août dans les ruelles pavées d'Eus. Elle laisse les larmes rouler sur ses joues. Le soleil se lève totalement maintenant, illuminant les falaises d'une lumière éblouissante. Rien ne laisse imaginer la tempête qui s'est déroulée cette nuit. Joanne sort le téléphone portable de sa poche et se met à pianoter sur le moteur de recherche. Une liste de résultats s'affiche et elle essuie ses joues distraitement en appuyant sur le bouton d'appel du premier résultat. Une voix féminine lui répond. La voix d'une femme qui vient à peine de se réveiller ou qu'elle tire peut-être même du sommeil. Joanne prend une profonde inspiration pour se donner un élan de courage.
Allô, bonjour, je m'appelle Joanne.
À l'autre bout du téléphone, un sanglot étranglé lui répond. Elle entend une voix à l'arrière, une voix masculine qui demande
« Qu'est-ce qui se passe ?»
La voix de la femme tremblante, à bout de souffle, murmure à l'homme.
« C'est elle. »
Elle perçoit un bruit sourd dans le combiné, comme si quelqu'un avait fait tomber un objet. La femme réussit à demander au milieu des larmes
« Ça y est, il est... c'est fini ?»
Joanne a besoin de 2 secondes pour pleinement réaliser ce qu'elle est en train de faire. Elle veut le faire en pleine conscience.
« Non !»
2 exclamations étranglées lui répondent au bout du fil. Un bégaiement incertain. Un espoir incrédule auquel on n'ose pas croire.
Pardon ? Il n'est pas... Il est encore vivant ?
Joanne ne lâche pas les aiguilles dans sa baire du regard, pas une seconde. Elle puise ses dernières forces dans leur contemplation.
Il a passé la nuit. Je crois qu'il n'en a plus pour longtemps. Un jour ou deux, tout au plus.
Elle essuie de nouvelles larmes qui ruissellent encore le long de ses joues.
Vous avez de quoi noter? Je vais vous donner sa localisation. On se trouve dans un cabanon en montagne, tout près de Lasquin dans les Pyrénées.
Attendez, mon mari va chercher une feuille et un crayon.
Elle entend de l'agitation, des chuchotements fébriles. Enfin, la voix de l'homme annonce.
C'est bon, j'ai de quoi noter.
Les coordonnées GPS sont pour la latitude... 42.898568. Pour la longitude, -0.716594.
Attendez, attendez, vous pouvez répéter, pour être sûr.
Bien sûr. 42.898568 latitude, moins 0.716594 longitude.
L'émotion est palpable de l'autre côté du fil. Johan les entend chuchoter avec précipitation. Elle ajoute pourtant «
Il aurait voulu mourir dans un endroit comme ça. C'était son souhait le plus cher. J'ai rompu le pacte que nous avions fait en vous appelant. S'il vous plaît, promettez-moi que vous ne l'emmènerez pas à l'hôpital. »
La mère d'Émile se met à sangloter dans le combiné. Johan imagine son visage ravagé par les larmes et l'émotion. Pourtant, la voix lui répond
« C'est promis. »
Johan laisse passer le flot d'émotions de l'autre côté du fil. Elle attend que les sanglots s'atténuent, que le silence revienne.
« Dernière chose, »
murmure-t-elle, le regard fixé sur les aiguilles maudites.
« Oui. »
« Je veux que vous sachiez, Madame Verger, que vous étiez avec lui pendant cette dernière escapade. Vous... »
Elle est obligée de s'interrompre pour bloquer le flux de larmes qui menace de se déverser.
Vous étiez auprès de lui à chaque seconde de cette dernière escapade. Il y a un tableau dans la cabane où se trouve Émile. Vous le verrez. Je vous le laisserai en évidence. Et vous comprendrez. Vous étiez auprès de lui à chacun de ses pas.
Elle ne peut plus continuer. L'émotion est trop forte. Elle est forcée de raccrocher sans un mot de plus. Émile est réveillé dans la petite cabane qui sent l'humidité. Il est toujours allongé car il est épuisé, mais elle a réussi à lui faire manger quelques fruits secs ce matin. Elle lui a laissé son duvet. Elle n'en aura plus besoin. Lui, oui. Il faut qu'il reste au chaud jusqu'à l'arrivée de ses parents. Elle lui a expliqué plusieurs fois déjà
« Papa va arriver. Il faut que tu te reposes avant l'arrivée de papa, d'accord ?»
Il acquiesce. Il ne parle plus beaucoup. Chaque mot le laisse à bout de souffle. Il est pâle. Il n'en a plus pour très longtemps. L'après-midi est entamé. Johan est certaine que les vergers seront là avant la nuit. Elle a tout réglé avec le berger qui n'a pas semblé comprendre grand-chose à son récit.
« Des gens vont arriver ?»«
Oui, les parents d'Émile vont le rejoindre. Il faudra juste les guider à sa cabane quand ils seront là, d'accord ?»
Il n'a pas tout compris.
« Vous serez pas là, vous ?»
Non.
Comment ça, non?
Je dois partir.
Il n'avait pas l'air enchanté. Il était grincheux.
Si vous pouvez aller voir de temps en temps qu'il va bien.
Cette fois, le berger s'était montré clairement irrité.
J'ai du travail, moi.
Elle n'avait pas insisté. Elle n'a pas pu se résoudre de toute façon à filer, à le laisser seul. Elle est restée auprès de lui, lui faisant boire de l'eau à petites gorgées, lui remontant le duvet sous le menton. Il semble avoir froid. Le tableau qu'ils ont peint tous les deux est posé sur la table en bois en évidence. Le carnet noir d'Émile repose juste à côté. Johan jette un coup d'œil par la fenêtre. Le ciel est bleu. Le soleil entame lentement sa descente. Elle songe qu'elle aurait aimé porter Émile jusqu'à l'herbe verte et l'y allonger pour qu'il admire le coucher du soleil une dernière fois, mais elle sait qu'elle n'en aura pas la force. Elle se contente de lui suggérer de regarder le ciel bleu, ce joli ciel bleu par la fenêtre. Elle entend un bruit de moteur au loin. Un véhicule approche. Le berger lui a révélé tout à l'heure qu'une route escarpée permettait d'arriver à quelques centaines de mètres du vallon et des cabanes en cas d'urgence. Elle sait que c'est eux. Personne n'emprunte jamais cette route, a déclaré le berger. À moins d'avoir un 4x4 ou une autorisation spéciale. Johan s'est chargé d'obtenir l'autorisation du berger. Il possède les clés du lourd portail qui en barre l'accès. Ce chemin, c'est le sien. C'est par là que cheminent ses victuailles une fois par mois et ses médicaments pour sa tension. Il a eu l'air irrité, mais il a accepté d'ouvrir le chemin. Les vergers approchent. Dans une poignée de minutes, ils descendront de leur véhicule une centaine de mètres plus bas et ils entameront l'ascension à pied, probablement en courant. C'est l'heure pour Johan de filer, de se faufiler entre les rochers et de disparaître dans les sous-bois.
« Bon, » murmure-t-elle, nerveuse. « Je dois te laisser. Papa arrive, je vais le chercher, d'accord ?
Elle voit son visage pâle acquiescer.
On se voit tout de suite, Trésor. On se voit très vite.
Elle embrasse son front, ses cheveux humides. Elle traverse la pièce comme au ralenti. Elle lui jette un dernier regard sur le pas de la porte branlante. Et puis rien d'autre. Elle disparaît avec son gros sac à dos rouge. Aucune parole ne précède les vrais départs. Edmond Jabès, le livre des ressemblances.